Mon histoire des femmes, par Michel Perrault. Premier épisode.
La première histoire que je voudrais vous raconter, en ouverture de cette série, c'est justement celle de l'histoire des femmes. Aujourd'hui, elle paraît évidente. Une histoire sans les femmes semble impossible. Pourtant, elle n'a pas toujours existé, du moins au sens collectif du terme, pas seulement des biographies, des vies de femmes, mais les femmes dans leur ensemble et dans la longue durée. Elle est relativement récente, cette histoire. En gros, elle a 30 ans. Pourquoi cela? Pourquoi ce silence? Comment s'est-il dissipé? De cette naissance, si l'on peut dire, j'ai été le témoin, et avec beaucoup d'autres, l'actrice. Et à ce titre, je voudrais vous dire un mot de mon expérience, parce qu'à certains égards, elle est significative, du passage du silence à la parole, et du changement de ce regard qui, justement, fait l'histoire. Il ne s'agit donc pas de vous raconter ma vie, mais dans mon expérience, ce qui peut éclairer l'histoire des femmes, dans sa naissance en quelque sorte. L'histoire des femmes n'avait pas été mon souci premier, je dois dire pas plus que les femmes d'ailleurs. Ça paraît curieux, mais c'est ainsi. Dans mon adolescence, ce que je voulais, c'était accéder au monde des hommes. Celui du savoir, celui du travail et de la profession. Du côté de ma famille, je ne rencontrais pas d'obstacles. Mes parents étaient résolument égalitaires, féministes, sans théorie d'ailleurs. Et ils me poussaient aux études, et même à l'ambition, presque plus que moi. Dans l'université d'après-guerre, celle des années 1950 à la Sorbonne, les professeurs étaient tous des hommes. Mais les étudiantes, dont j'étais, étaient de plus en plus nombreuses, même si elles s'arrêtaient souvent en chemin, continuaient pas toujours jusqu'au bout de leurs études. Et en ce qui me concerne, je ne rencontrais pas de discrimination particulière. Elles étaient peut-être un peu cachées, j'y ai plus tard réfléchi, mais à l'époque, je ne les éprouvais pas tellement. Lorsqu'en 1949, parut Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, voilà une date dans l'histoire des femmes, ce fut un scandale. Un scandale que Sylvie Chaperon, une jeune historienne, a raconté. Simone de Beauvoir, j'étais résolument de son côté, et elle fut pour moi, dans les années suivantes, une figure comme une vie exemplaire à laquelle je souhaitais souvent me conformer, sans toujours oser d'ailleurs. Mais la lecture partielle que je fis alors du deuxième sexe ne me bouleversa pas vraiment. J'en vis la richesse, mais seulement plus tard. À l'époque, j'étais occupée ailleurs. Il faut dire que c'était les années d'après-guerre et qu'on avait bien d'autres soucis. L'économique et le social dominaient cette période austère qu'on appelle la reconstruction. C'était l'horizon de la société, comme d'ailleurs celui de l'histoire. Alors, parmi les étudiants, nous discutions communisme, marxisme, existentialisme, première guerre coloniale, la guerre d'Indochine. La classe ouvrière nous paraissait la clé de notre destin et de celui du monde, en même temps que la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, comme disait jadis Saint-Simon, symbole d'une intolérable injustice. Écrire son histoire, l'histoire de la classe ouvrière, était au fond une façon de la rejoindre pour la jeune bourgeoise que j'étais, bien sûr. À la Sorbonne, il y avait un grand professeur qui s'appelait Camille Ernest Labrousse et qui était l'autre grand. L'autre grand, c'était Fernand Braudel. Il y en avait deux grands qui dominaient comme ça la scène historique. Et lui développait justement cette histoire-là. Il faisait des cours qui avaient d'ailleurs énormément de succès. Je me souviens d'un cours sur la classe ouvrière en France et en Grande-Bretagne au XIXe siècle, cours auquel nous étions très nombreux. Alors je fis, sous la direction de Labrousse, ma maîtrise, plus tard après l'agrégation, une thèse sur les ouvriers en grève. On voit mes intérêts à cette époque-là. Et les femmes n'occupaient dans ce livre, cette thèse qui devient un livre, un chapitre, certes. En effet, la grève, au contraire de l'émeute de subsistance du XVIIe, du XVIIIe siècle, que je trouvais bien plus tard, était au XIXe siècle un acte plutôt viril. Les femmes y étaient, mais en sourdine, et les ouvriers tenaient même pas tellement à ce qu'elles fassent grève. Cela me frappa à l'époque, comme d'ailleurs la dérision dont ces ouvrières étaient l'objet. Mais pourtant, je ne m'y attardais pas vraiment. J'étais beaucoup plus sensible aux problèmes que rencontraient dans la classe ouvrière les ouvriers les moins qualifiés ou les étrangers. J'étais beaucoup plus sensible à la xénophobie ouvrière que je rencontrais d'ailleurs avec étonnement et sur laquelle à l'époque j'avais écrit. J'étais beaucoup plus sensible à la xénophobie qu'au sexisme ouvrier.
Allons. Cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie, et que leurs pétales soient la mère étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.
Alors l'histoire des femmes. L'histoire des femmes, j'y suis venue plus tard. J'y suis venue dans les années 1970, voyez, on fait un saut, dans la foulée de 1968 et surtout dans la foulée du mouvement des femmes que j'ai vécu de plein fouet, d'abord à la Sorbonne, où j'étais assistante, puis à Paris 7, université nouvelle, dont j'ai été un peu une des fondatrices à mon niveau évidemment, université très ouverte aux innovations de toutes sortes. Bien entendu, ce ne fut pas en vertu d'une soudaine illumination. Je n'ai pas eu mon chemin de Damas, comme jadis l'apôtre Paul. Pas du tout. C'est qu'en 20 ans, les choses avaient changé. Et moi aussi, j'avais changé. Engagée dans le mouvement des femmes, je souhaitais connaître leur histoire. Et puis, la faire. Puisque j'étais historienne, j'étais professeure, et qu'au fond, je n'en parlais pas. Puisque cette histoire n'existait pas aussi peu, eh bien, pourquoi ne pas la faire? Est-ce que c'était pas une manière de rejoindre l'engagement militant, si l'on peut dire, et l'engagement intellectuel? De plus, il y avait une réelle demande à cet égard. Devenu professeur après mon doctorat, je pouvais prendre des initiatives, surtout, encore une fois, dans une université qui était très favorable aux initiatives. Et c'est ainsi que, à la rentrée 1973, avec deux collègues plus jeunes, Pauline Schmitt et Fabienne Bock, qui sont maintenant l'une et l'autre professeurs dans des universités, nous fîmes un premier cours que nous avions intitulé « Les femmes ont-elles une histoire ?» Curieux intitulé. Mais il dit nos incertitudes et il traduit notre embarras. Nous n'étions pas certaines que les femmes aient vraiment une histoire. D'autant plus que, à ce moment-là encore, le structuralisme de Claude Lévi-Strauss avait insisté sur le rôle des femmes dans la reproduction et dans la parenté. On se souvient de la formule fameuse « échange des biens, échange des femmes ». Les femmes comme produits, les femmes comme objets d'échange, mais au fond assez passives. Et au fond, nous pensions que tout cela traduisait la relative immobilité à travers le temps de l'existence des femmes. Et puis, nous ne savions pas bien comment l'enseigner, cette histoire. Nous n'avions ni matériaux, ni méthodes, tout juste des interrogations. Alors comment faire? Eh bien, nous avons fait appel d'abord à des sociologues, parce que les sociologues étaient beaucoup plus avancés que nous. Par exemple, André Michel, sociologue, a été celle qui a ouvert le cours et elle nous parlait des modèles de famille sur lesquels elle avait travaillé. Et puis, nous avons fait appel à nos collègues historiens, Pierre Vidal-Naquet, Jacques Le Goff, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean Chesneau, Mona Ozouf, bien d'autres. Et à tous, nous posions la question, qu'est-ce que vous avez trouvé sur les femmes dans l'histoire que vous avez faite? Et est-ce que c'était pour vous une question importante? De manière générale, ils nous répondaient que c'était une très bonne question et qu'en effet, ça valait la peine et que le cours intitulé « Les femmes ont-elles une histoire » c'était un bon intitulé. Nous étions donc tout à fait encouragés dans notre entreprise. Le cours fut un grand succès. Le mouvement était lancé. Désormais, il ne s'arrêterait plus. Dans les années suivantes, nous avons fait par nous-mêmes des cours sur toutes sortes de thèmes. Et puis de mon côté, je faisais des séminaires et je lançais des sujets de recherche, des thèses, des maîtrises, des thèses sur les femmes. Et sur ce point, je m'arrêterai à ce moment-là sur l'évocation d'une historiographie, histoire de l'histoire, comme vous le savez, dont nous allons mesurer le chemin et utiliser les résultats dans les séances qui viennent. Je voudrais dire aussi que cet itinéraire qui fut le mien, d'une véritable découverte, d'un avènement, d'une naissance, s'inscrit dans un mouvement collectif. Bien entendu, je n'étais pas toute seule. D'autres femmes vivaient au même moment des expériences similaires. Par exemple, à Aix-en-Provence, Yvonne Knibieler, dont je vous reparlerai, et qui, elle, a beaucoup travaillé sur l'histoire de la maternité. À Toulouse, Rolande Trempé et Marie-France Brive. À Paris 8, Claude Mossé, qui a lancé le travail sur les femmes dans l'Antiquité. Madeleine Robériou, Béatrice Lama. À Lyon, notamment en psychologie sociale, etc. Il y avait toutes sortes d'expériences analogues au début des années 1970. Et ce mouvement, en France, eh bien, il était encore beaucoup plus intense à l'étranger. Aux États-Unis, notamment, où il y avait déjà des Women's Studies, et à Paris 7, ma collègue et amie Françoise Bache, qui était une spécialiste d'histoire anglo-américaine, nous introduisait à ces Women's Studies et par là nous avions contact avec tout ce que ces études avaient produit comme réflexion, beaucoup plus en avance que la nôtre d'ailleurs à l'époque sur la question. Et puis en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, un petit peu plus tard en Espagne, au Portugal, où cette histoire se développe énormément aujourd'hui. C'était un mouvement mondial. Un peu plus tard aussi, le Brésil, l'Inde, le Japon entrèrent en scène, mais pas tout à fait encore au début des années 70. Alors, au fond, ce développement de l'histoire des femmes, c'est la traduction de quelque chose. C'est l'effet, pour aller vite, de la prise de conscience de la dimension sexuée de la société et de l'histoire. Le fait qu'il y a des hommes, des femmes, et que ces hommes et femmes ont des rapports entre eux, et que c'est un sujet très important. On a réalisé ça dans les 30 dernières années, avec beaucoup d'acuité, et ça a eu des conséquences aussi sur les sciences sociales et sur l'histoire. 30 ans déjà, c'est-à-dire plusieurs générations, et déjà une accumulation de travaux qui n'est plus du tout primitive. On pouvait parler d'accumulation primitive dans les 10 premières années, mais plus maintenant. Il y a des thèses, publiées ou non, des livres de l'université et hors de l'université, bien entendu. Des bibliothèques entières. L'histoire des femmes remplit maintenant des rayons entiers de bibliothèques. En France, il y a des revues, l'une notamment en histoire, la revue Clio. 20 numéros parus à ce jour, avec 2 numéros par an. C'est Françoise Thébault qui la dirige. Et d'ailleurs, le livre de Françoise Thébault qui s'appelle « Écrire l'histoire des femmes » C'est le meilleur livre qui existe pour se rendre compte un petit peu de tout ce que je viens de vous raconter. Il existe des associations, par exemple CIEFAR, qui est une association internationale pour l'étude des femmes sous l'Ancien Régime, que dirige Eliane Viennot, Mnemosyne. Il y a des colloques, beaucoup de colloques. Et à Blois, en octobre 2004, au rendez-vous de l'histoire, le thème était « Les femmes dans l'histoire ». Et ce fut un très grand succès, avec un très bon accueil du public à tous les thèmes qui étaient abordés par des dizaines d'historiennes, maintenant très nombreuses. C'est dire que l'histoire des femmes existe, qu'elle a changé, dans ses objets, dans ses points de vue. Elle est partie, cette histoire des femmes, un peu d'une histoire du corps, des rôles privés des femmes, la maternité, par exemple, pour aller vers une histoire des femmes dans l'espace public, celui de la cité, du travail, de la politique, de la guerre, de la création. Elle est partie, cette histoire, d'une histoire des femmes victimes pour aller vers une histoire des femmes actives dans les multiples interactions qui font justement le changement. Elle est partie, cette histoire des femmes, d'une histoire des femmes pour devenir davantage ce qu'on appelle maintenant une histoire du genre qui insiste sur les relations entre les sexes et prennent en compte justement la masculinité, l'histoire des hommes. Elle a élargi ses perspectives spatiales, religieuses, culturelles. Eh bien, c'est de tout cela que je voudrais vous rendre compte, le plus largement possible, car bien entendu, cette histoire des femmes n'est pas mon histoire des femmes. C'est l'histoire qu'ont faite beaucoup de femmes, dont je ne suis, au fond, ici, pas même le porte-parole, mais la médiatrice. Nous ferons cela en 25 émissions, dont je voudrais vous donner les grandes lignes. L'exhaustivité est impossible, c'est énorme, immense. Donc, nous tirerons que quelques fils dans cette immense toile, autour de quelques thèmes que j'évoque simplement maintenant. D'abord, on parlera justement du silence. Pourquoi ce silence sur les femmes et des sources manquantes ou existantes avec lesquelles on peut faire l'histoire. Puis, et ça sera la deuxième semaine, on parlera du corps. Dans la troisième semaine, on parlera de l'âme. Dans la quatrième, du travail et de la création. Et dans la cinquième, les femmes dans la cité, dans la politique, avec le féminisme et beaucoup d'autres formes. Nous traiterons tout cela, nous raconterons tout cela avec des exemples, des figures, des histoires choisies dans un espace-temps le plus large possible, mais malgré tout, par la force des choses et celle de ma propre compétence, pris davantage dans l'histoire de l'Occident, voire dans l'histoire de la France contemporaine. Avec toujours cette question qui court derrière ce récit. Qu'est-ce qui a changé dans les rapports entre les sexes? Qu'est-ce qui a changé dans la différence des sexes telle qu'elle est représentée et vécue? Comment? Et sinon, pourquoi? Pour quels effets? Et pour quel avenir?
Mon histoire des femmes, par Michel Perrault. Réalisation, Pierrette Perronneau.